Délivrez-vous. Une émission littéraire présentée par Claudine Buga pour ceux qui aiment lire et ceux qui n'ont pas le temps.
C'est de zèle.
Bonjour à toutes et tous. Après la balade en forêt de la semaine dernière, là, je vous emmène en voyage. Un voyage que vous commencez un petit peu à connaître, puisque ce voyage, nous avons toujours le même guide de ce voyage, je vous emmène en Égypte. Alors, l'Égypte, pas d'aujourd'hui, mais l'Égypte d'hier. Bien que l'histoire que notre guide va nous raconter, eh bien, ce personnage d'hier a une influence sur l'Égypte d'aujourd'hui. Alors, ce guide, vous le connaissez, il va nous parler d'un personnage peu ou pas connu, d'un pharaon qui a d'abord été scribe, et oui, en tout cas un personnage fascinant, étonnant, et je dirais dont peut-être certains dirigeants aujourd'hui pourraient peut-être tenir la leçon, en tout cas prendre la leçon, prendre l'exemple. Bonjour Christian Jacques.
Bonjour Claudine Buga.
Merci d'avoir de nouveau accepté mon invitation pour Délivrez-vous pour ces deux ailes. Vous êtes un habitué de l'émission depuis maintenant nombreuses années et je vous en remercie infiniment. Alors, nous nous retrouvons pour deux livres. Alors, on parlera tout à l'heure de Monsieur Higgins, des nouvelles aventures de Monsieur Higgins. Je sais que vous appréciez et que tout le monde apprécie. Moi, je suis toujours ravie de le retrouver. Mais là, nous allons parler de votre dernier ouvrage. Alors, je ne sais pas si je prononce bien Horemheb. Voilà. Le retour de la lumière aux éditions Ixo. Alors, on vous connaît pour tous vos ouvrages, hein, vos romans, dirais-je, historiques sur l'Égypte, cette passion qui vous tient au corps depuis de nombreuses années. Et là, nous allons à la rencontre d'un personnage, je disais, peu ou pas connu, qui a été le scribe de Toutankhamon, qui est devenu pharaon. Alors, après moultes aventures, et vous allez nous raconter ça. Moi, ce que je voudrais savoir, comment se fait-il que, bien sûr, nous qui ne sommes pas des spécialistes de l'Égypte, on le devient grâce à vous, et on a appris beaucoup de choses grâce à vous, au travers de ces histoires de pharaons. Comment ça se fait que Horemheb, on n'en entend pas beaucoup parler? Dites-nous tout.
Oui, vous avez raison, et c'est une grande injustice.
Ah,
alors
oui.
Peut-être que, effectivement, comme il a vécu à travers plusieurs règnes avant de prendre lui-même le pouvoir, il a été élevé, en tout cas il était scribe sous la cour d'Akhenaton,
oui,
de Néfertiti, donc de grandes stars de l'histoire égyptienne. Et puis après, il a traversé le règne de Toutankhamon, qui alors lui est le célébrissime par excellence, comme
oui,
il y a encore de le prouver, l'expo qui a eu lieu à Paris, qui a accueilli un nombre de visiteurs impressionnants.
Exposition magnifique.
Voilà, bon, oui, c'est un homme qui a beaucoup travaillé, qui a sauvé son pays des envahisseurs et qui ensuite a été sans doute l'un des plus grands législateurs de toute la civilisation pharaonique. Donc ça fait beaucoup. Et alors c'est un homme mystérieux finalement, parce que on ne sait même pas combien d'années il a régné. Selon les uns, ce serait 15 ans, selon les autres, ce serait presque 50. Bon, la vérité se situe sans doute
entre les deux, oui,
les deux chiffres. Donc, c'est pas quelqu'un, finalement, d'aussi star, n'est-ce pas, que ceux que je viens de citer.
Oui.
Et moi, c'est quelqu'un que j'admire depuis très longtemps, que j'ai rencontré à Karnak, puisqu'il y a laissé une stèle monumentale qu'on appelle le décret d'Horemheb, justement.
Oui, oui.
Et il a un nom, d'ailleurs, qui est assez significatif, son nom de pharaon, c'est donc Horemheb, c'est-à-dire Horus est en fait. Et Horus, c'est le protecteur de la royauté pharaonique.
Oui.
Et en réalité, tout ce qu'il a voulu construire depuis le début, c'est qu'il a estimé qu'il était dans un monde en crise, dans un monde qui était en train de s'éloigner de la vérité, surtout de la justice, d'ailleurs, qui faisait beaucoup trop de place au pouvoir personnel. Et il a voulu revenir vraiment aux origines. Et il a réussi, d'ailleurs. Il a remis l'Égypte sur pied de façon tout à fait extraordinaire. Et il est également, comme ça, pour terminer, je dirais, sa carrière fabuleuse, il est le fondateur de la lignée des
Ramsès.
Et parmi lesquels il y aura donc le fameux Ramsès II.
Oui.
Et son, je dirais que son bras droit, grâce auquel il a pu faire beaucoup de choses, c'est un dénommé Ramsès, c'est le premier des Ramsès, qui était un humble soldat, mais dont il a eu un grand besoin pour rétablir l'ordre, parce qu'en plus, alors, il a vraiment fait quelque chose de merveilleux. Il a refondé une armée égyptienne qui n'existait plus, de façon ne pas faire la guerre. Et effectivement, il n'y a pas eu de guerre parce que il y avait un très très grand danger à l'époque et vous voyez que rien n'a changé.
Et non.
Ça s'appelait les Hittites.
Les Hittites, les ancêtres des Turcs, voilà.
Et oui, les ancêtres des Turcs et qui menaçaient d'envahir l'Égypte tout bonnement, qui a toujours été d'ailleurs toujours menacé au long de son histoire. Et là, grâce à Horemheb, qui a reconstitué avec ce Ramsès toute une armée, eh bien, ils n'ont pas attaqué. Voilà. Et ça a été une force de dissuasion qui a permis à l'Égypte de retrouver la paix et la prospérité, d'ailleurs.
Oui. Alors, à propos des Hittites, la veuve d'Akhenaton n'était pas, dirais-je, tout à fait innocente de la chose, puisqu'elle-même était un petit peu la traîtresse du lot, dirais-je, par rapport justement à cette invasion de Hittites.
Vous avez parfaitement raison, et c'est un épisode absolument incroyable de l'histoire égyptienne. Alors, pour comprendre un tout petit peu le contexte, donc notre Horemheb est scribe, et puis devient scribe royal, c'est-à-dire, on va dire, appartenant à la très haute administration.
Et confident.
Akhenaton,
et confident.
Il n'aime pas du tout.
Oui.
Pardon.
Et il deviendra confident aussi de tout en tant qu'Amon par la suite.
Voilà. Alors, il va jouer un rôle fondamental, parce qu'il n'apprécie pas du tout ce qu'est en train de faire Akhenaton, c'est-à-dire c'est... Nous sommes devant un roi mystique, hein. C'est tout indéniable, qui communie avec son dieu,
Aton, unique, Aton.
Mais qui néglige absolument tout le reste, c'est-à-dire que l'économie va très mal, la politique extérieure, il n'y en a plus, et c'est à la suite, on est à peu près sûr aujourd'hui que c'est à la suite d'une épidémie qui s'est propagée dans la ville du Soleil, une épidémie qui s'est propagée parce que Akhenaton avait invité des ambassadeurs, et l'un d'eux était très malade. Et on a retrouvé effectivement des momies, notamment d'enfants. Très certainement, c'est pas la peste, mais c'est une maladie infectieuse qui a ravagé cette capitale. Alors Horemheb, il a déjà fallu qu'il organise, et on imagine quand même le travail colossal que ça a représenté, le déménagement de toutes les institutions qui étaient dans cette ville, en moyenne Égypte, grosso modo, au sud du Caire, pour revenir à la ville traditionnelle de Thèbes. Et là, eh bien, tout le monde, maintenant, je crois, le sait à peu près, le petit Toutankhaton est devenu Toutankhamon, mais il avait peut-être 12 ans quand il est monté sur le trône. Et autour de lui, il y a deux personnages. Il y a un vieux courtisan rusé, madré, qui s'appelle Aï. Et puis, il y a le scribe Horemheb, qui devient à ce moment-là, en même temps, chef des armées. Donc, ces deux personnages s'apprécient que médiocrement, mais ils sont suffisamment intelligents pour d'abord sauver le pays. C'est ça qui est essentiel. Et Horemheb va effectivement former le jeune Toutankhamon. Il va être à ses côtés. Ce qui me permet d'ailleurs dans le livre de redonner aussi toutes les informations récentes que nous avons sur Toutankhamon. On a eu quand même quelques découvertes. Il n'a pas été assassiné, ça c'est une chose absolument certaine. Maintenant, et à la mort de Toutankhamon, et sa veuve, en effet, qui était une fille d'Akhenaton, panique. Vraiment une panique. Et elle écrit une lettre. Alors là, nous ne sommes pas du tout dans le roman, hein, on est dans des documents historiques qu'on a parfaitement retrouvés. Et alors, elle fait un acte absolument insensé, c'est-à-dire qu'elle écrit au souverain hittite pour lui dire, bien écoute, envoie-moi l'un de tes fils, je vais l'épouser, et il sera pharaon d'Égypte. C'est absolument inouï, parce que ça veut dire qu'elle donne le pays à l'ennemi, en quelque sorte.
Eh oui, complètement.
Bon, sans même avoir besoin de combattre, et tout à coup, le monde militaire américain aurait pu complètement basculer. En fait, c'était un moment d'une gravité énorme. Alors, le roi hittite est quand même très, très méfiant. Il a peur que ce soit une ruse, un piège, donc il y a un échange de correspondances. Finalement, il y croit, et il envoie son fils, un dénommé Zanamza. On serait presque dans un western. Hein. Et bon, heureusement, notre Horemheb veille et le fils du roi des Hittites part, en effet, avec toute une expédition, mais il n'arrivera jamais. Voilà, il est intercepté en route et très probablement exécuté. Je crois que là, l'intervention a été extrêmement radicale. Alors après, notre reine... qu'on peut appeler quand même traîtresse.
Oui, malgré tout.
Parler des archives, ça ne veut pas dire qu'elle a été exécutée, ça veut dire qu'elle ne gouverne plus, elle n'est plus aux affaires. Et là, Horemheb, il a une attitude quand même tout à fait étonnante, ce qui prouve de dire qu'il était assez dépourvu d'ambition en réalité,
oui.
Puisque c'est lui qui aurait dû monter sur le trône.
Oui.
Eh bien, pas du tout. Pas du tout. Il laisse en réalité le vieux courtisan Haï,
oui.
Qui va régner très peu de temps, il va régner 2 ans,
mm-hmm.
Mais c'est lui qui prend le pouvoir. Alors là, il y a des choses extrêmement intéressantes par rapport aux tombes, parce que la tombe de Haï, que je conseille à tous les touristes de visiter, se trouve dans la vallée des rois, mais pas dans la grande vallée des rois, dans une branche où peu de gens vont, où il y a 2 ou 3 tombes, et celle, évidemment, d'Haï est beaucoup plus grande que celle de Toutankhamon, mais reprend à peu près le même décor.
Mmh.
On se rend compte que nous sommes toujours dans un moment très particulier, même de l'art égyptien.
Mmh.
Et ça n'est qu'à la mort de Haï, et je dirais après avoir eu beaucoup d'ennuis avec le parti athénien, parce que les partisans d'Aton,
roi unique,
du jour au lendemain,
voilà, hein. Le dieu unique.
Voilà. Mm-hmm. Donc Horemheb doit affronter un danger extérieur, un danger intérieur. Finalement, il va monter sur le trône, et je dirais sa première obsession, c'est l'état du pays,
oui.
Et c'est l'état d'injustice.
C'est le peuple, et là, c'est le peuple,
voilà.
Oui.
On peut rentrer, d'ailleurs, c'est très étonnant parce que ce décret rentre dans beaucoup de détails.
Oui.
Il explique par exemple que au palais, tout est désorganisé. C'est-à-dire que, vous savez, il arrive parfois que dans certaines, même dans nos démocraties, il y a beaucoup de conseillers dans,
mm-hmm.
Dans les lieux de pouvoir,
et
que les conseillers prennent un peu trop d'importance,
mm-hmm.
que en réalité, celui qui préside ne préside pas vraiment. Enfin, je fais allusion à rien. Hein.
Non, mais moi, je vois vraiment pas ce que vous voulez dire. Non, vraiment pas.
Voilà, moi non plus. là, il va mettre de l'ordre dans tout ça et il nous explique comment. Ensuite, il regarde comment se passent les taxes et les impôts, beaucoup
oui.
trop élevés,
oui.
Touchant des gens, notamment modestes.
Mm-hmm.
Grande inégalité dans la répartition des richesses. C'est tout à fait étonnant. Et c'est vrai que vous disiez tout à l'heure que peut-être certains de nos dirigeants pourraient relire ce décret de Remède.
Ah oui.
Je leur conseille vivement.
Ah oui. Ah oui. Oui, oui.
Car on voit très très bien que, au fond, nous n'avons pas changé.
Mm-hmm.
Les problèmes sont les mêmes.
Oui.
Et qu'il y a certaines façons de les résoudre.
Oui.
Voilà. Et Remède nous en donne une qui est. Mais alors, là, il s'inspire vraiment de l'Égypte dans ses profondeurs parce que. Depuis la première dynastie, les Égyptiens, pour eux, ce qui fonde un État, c'est la justice.
Mmh.
Hors de la justice, ça ne peut pas marcher. Et alors, il y a quelque chose de très net, c'est que moi, je suis très frappé aujourd'hui, on nous parle de justice à 2, à 3 vitesses,
oui.
etc.
Mmh.
C'est vrai, d'ailleurs, bien sûr.
Oui.
En Égypte, ça ne se passe pas du tout comme ça. Parce que nous avons des textes hein, tout à fait clairs, où par exemple, le plus humble paysan, c'est qu'il sera traité comme le plus riche des notables, par exemple. Et nous avons des procès où, en effet, c'est pas le plus riche des notables qui gagne à chaque coup.
Mm-hmm.
Où la situation est... D'ailleurs, le roi lui-même ne peut pas intervenir dans une affaire de justice.
Mm-hmm.
Ça, c'est tout à fait extraordinaire. C'est donc pas lui qui peut en aucun cas dire « Ah ben oui, moi j'ai une préférence pour un tel ou pour un tel.
Mm-hmm. »
Et on peut presque dire que la justice est ritualisée. C'est le premier ministre et serviteur de la déesse Maat.
Maat, justice déesse. Et justesse.
Ah, voilà. Mm. Maat est très présente dans ce livre parce que
oui.
C'est très beau d'ailleurs que,
oui.
que la justice soit représentée par cette femme assise.
Tout à fait.
Qui porte sur sa tête une plume d'autruche.
Mm-hmm.
Pour une raison très précise, c'est que cette plume, c'est la rectrice des oiseaux.
Mm-hmm.
C'est ce qui permet à tout oiseau de s'orienter et de ne jamais perdre ni le nord, ni la bonne direction.
Mm-hmm.
Donc toute cette symbolique... Pour les Égyptiens, elle est pas abstraite, elle est quotidienne, elle,
mm-hmm.
elle est vécue, elle est très importante. Et je pense qu'Horemheb est l'un des pharaons vraiment qui a mis l'accent, enfin en tout cas qui a remis la justice en œuvre.
Oui. Alors, en matière de justice, mais c'est aussi une justice économique, c'est-à-dire en fait, le titre du livre, hein, retour de la lumière au niveau social, économique, la paix, une forme de justice. Moi, ce qui m'a aussi impressionné, c'est que il y a une forme aussi de sérénité, c'est-à-dire j'ai senti un homme serein, très, comment dirais-je, très habité par sa mission et son objectif, finalement, au lieu de ses propres ambitions, c'était le peuple, avant tout.
Oui, oui, vous avez tout à fait raison. Je crois que c'est venu de ce qu'il a observé à la cour d'Akhenaton.
Mmh.
Car Akhenaton, tout en étant un grand mystique, avait également un état assez policier.
Oui.
C'est-à-dire que
oui.
lorsque le matin, lui et Nefertiti passaient en char sur la grande avenue qui les menait au temple, oui. Le peuple devait être là, applaudir, mais le peuple encadré par la police.
Oui. Est-ce qu'on peut dire qu'Akhenaton, c'était une forme de dictateur égyptien ?
Écoutez, je pense que oui. Mm-hmm. Je pense que oui, parce que, d'une part, en éliminant les divinités, mmh. en éliminant les cultes traditionnels, en obligeant le peuple à le suivre, en déménageant la capitale,
mmh.
en donnant la plus grande importance donc à la police locale, il n'était pas question de discuter quoi que ce soit.
Mmh.
Et ça, c'était également très choquant pour Horemheb, car vous savez que le nom de Pharaon, qu'il ne faut jamais assimilé justement à un dictateur ou à quelqu'un qui agit selon son bon plaisir,
oui.
le titre le plus courant de Pharaon, c'est serviteur.
Serviteur, oui.
Et Pharaon, c'est le premier serviteur de son peuple.
Oui.
Et ça, on ne le dira jamais assez.
Mm-hmm.
Et donc, Horemheb a été extraordinairement choqué par cette attitude de quelqu'un qui, au fond, a porté le pouvoir personnel à son apogée. Et donc, la première des choses qui s'est passée avec Toutankhamon, quand on est revenu à Thèbes, et je dirais à la tradition politique, sociale égyptienne,
oui.
ben, c'était tout le contraire. C'est-à-dire que là, de nouveau, les institutions se sont remises mm-hmm. à être au service de la population. Et n'oublions jamais que le temple égyptien, oui, c'est là où il y a le secret des dieux,
bien
c'est
sûr.
Là où on célèbre les mystères,
oui.
c'est là où on fait les rites, mais c'est aussi un centre économique.
Mmh.
Tout autour du temple, vous avez les boulangeries, les brasseries, vous avez les boucheries, vous avez des ateliers d'orfèvres, de menuisiers, etc. La vie est globale, est complète. Et ce qu'on appelle le service des offrandes, eh bien, c'est qu'on apporte au temple toutes les nourritures, par exemple. Alors, avec deux intentions. La première, c'est d'abord d'offrir leur aspect subtil aux dieux,
oui.
c'est également de vérifier, par exemple, la qualité des viandes, la qualité des légumes, la mm-hmm. qualité de tous les produits, et ensuite, tout cela est redistribué à la population,
oui.
en fonction de ses besoins.
Mmh. Donc, en fait, c'est tout un, je dirais, une organisation, je trouve, assez rythmée, assez bien formatée, mais utile au peuple, finalement, tout tend vers le peuple pour son bien-être. De toute façon.
Ah, oui, c'est fondamental parce que vous avez par exemple une phrase, les Égyptiens, vous savez, ils avaient beaucoup de fêtes. Hein.
Oui, oui.
Les congés, c'était en fait les fêtes, et il y avait les fêtes nationales pour les grands dieux, il y avait les fêtes locales pour les dieux locaux,
mm-hmm.
il y avait la fête des corporations. Donc, ils travaillaient beaucoup, mais ils avaient également pas mal de jours de congés et de fêtes. Et là aussi, on peut dire qu'Akhenaton a perverti complètement le système des offrandes parce que il était tellement obnubilé par ce culte du soleil qu'il avait fait dresser un nombre d'hôtels considérables dans sa ville d'Amarna et qu'il faisait mmh. Griller des quantités invraisemblables de viande, d'animaux qui avaient été abattus. Il n'y avait plus de redistribution.
Mmh.
C'était tout pour son dieu et plus du tout pour les gens.
Pour les gens.
Et donc,
ouais.
c'est une perversion du système qui a énormément choqué
Horemheb,
évidemment,
oui.
qu'il a rétabli dès qu'il l'a vu.
Tout à fait. Alors, dans votre livre, nous retrouvons trois personnages, je dirais initiatiques, incontournables, qui sont pour moi, en fait, trois consciences. Il y a le vieux, il y a
oui.
l'âne, et il y a le chien.
Oui.
Et moi, à chaque
et
fois,
oui.
je me dis, ces trois consciences que nous devons écouter, vous savez, comme un murmure, vous savez, comme un petit lutin sur l'épaule, le bon lutin et le mauvais lutin. Et moi, j'aime bien ces trois. D'ailleurs, le vieux, tout au départ, quand on commence le livre, il y a ce petit garçon qui court, hein, qui doit faire échapper à la police, et il y a le vieux qui est là, qui surgit. Voilà, comme d'habitude, il est là. Voilà.
Alors oui, c'est vrai que c'est un personnage pour lequel j'ai
oui.
une immense tendresse parce
oui.
que bon le vieux il incarne tout le peuple quoi.
Oui,
il
c'est
est,
ça.
Il est
la conscience du peuple,
voilà.
Mm.
ses âges, bien sûr, il est complètement, complètement intemporel.
Ah oui.
Il observe, il regarde.
Il a dû rencontrer Mathusalem. Il a dû rencontrer Mathusalem.
Oui, hein. Bien sûr, il a totalement rencontré. Puis vous savez, il est né vieux, comme vous dites. De toute façon, il n'y a pas de problème.
C'est ça.
Donc, il a un franc-parler. Voilà, il a
c'est
un franc-parler total.
Ça. Oui.
Rien ne l'impressionne. Et quel que soit les puissants, il n'en a rien à faire.
Oui,
il exprime effectivement la vérité du quotidien, puis aussi l'exigence. Vous savez, il a quelque chose, il me semble, qui est en train de disparaître quand même assez souvent. Ça s'appelle le bon sens.
Ah oui, tout à fait.
On disait que c'était la chose la moins partagée du monde. Ben, je crois que c'est un peu vrai.
C'est vrai.
Et j'aime beaucoup cette expression parce que
avoir du bon sens, oui.
La bonne direction. Et lui, il est toujours là pour la rappeler, cette bonne direction.
C'est vrai.
Donc c'est quelqu'un. Alors, mes lecteurs m'en parlent beaucoup. Ils sont comme vous, ils l'aiment beaucoup. Ben, écoutez, je crois que il le mérite.
Oui.
Bon, c'est même vrai. S'il a un sale caractère, quand même.
Oui, on lui pardonne au vu de son âge, que nous ne connaissons pas, d'ailleurs, de toute façon, puisqu'il a rencontré Mathusalem et le Père Noël, donc...
Voilà, exactement.
En tout cas, c'est Oui, et puis il y a l'âne et le chien. Il y a l'âne Vendu-Nord, voilà.
Alors, ouais, ça, c'est très, très important, Vendu-Nord. Alors, Vendu-Nord, c'est extraordinaire, parce qu'il y a eu, il y a quelques années, un livre de l'âne qui est paru, avec tous les ânes célèbres. Et Vendu-Nord, il figure. Il a toujours existé, Vendu-Nord.
Et oui.
Et alors, là c'est très profond par rapport à l'Égypte, parce que vous savez que pour eux, ça peut choquer du point de vue humaniste, mais quand ils font la liste des êtres, les humains n'arrivent pas en tête. Les humains, pour les Égyptiens, sont une espèce vivante parmi tant d'autres, et qui n'est pas forcément supérieure aux autres. Alors ça, c'est très bizarre pour nous, mais c'est ainsi qu'ils voyaient le monde. Et donc, par rapport aux animaux, il y a un respect extraordinaire. On vient encore de découvrir en Égypte une tombe où il y avait des lions momifiés. Évidemment, ils ont momifié les chiens, les chats, parce qu'il y en avait beaucoup, c'était des animaux domestiques. Mais ils ont momifié aussi des serpents, ils ont momifié des oiseaux, des faucons, des ibis, etc. C'est une marque d'hommage à l'animal.
À l'animal.
Lui aussi, voilà, revivra dans l'éternité. Alors, moi, les ânes, j'ai une grande tendresse pour les grisons d'Égypte, ces ânes qui ont travaillé. Vous les voyez d'ailleurs sur les monuments.
Oui, tout à fait.
Ils transportent. Mais alors, là où c'était très sage, aujourd'hui, pour moi, c'est toujours très déchirant de voir comment on traite les animaux dans l'Égypte moderne, parce que. Vous savez, ils ont une espérance de vie très très limitée, les ânes égyptiens. Vu les proies qu'ils portent,
bien
les
sûr,
charrettes,
pauvres bêtes.
Il y a des gens qui montent sur leur échine, donc c'est épouvantable. En Égypte, on ne monte pas sur un âne. Il y a que justement, il y a une scène très drôle dans une tombe où on voit un étranger, c'est un Libyen en l'occurrence, qui monte sur le dos d'un âne et tout le monde éclate de rire.
Ça ne se fait pas.
C'est barbare.
Bah, oui.
On calcule pour les ânes à certains poids
pour ne pas que ce soit trop pénible pour lui. Voilà. Et puis il y a le chien.
Oui, puis là, juste un mot pour Vendu-Nord. N'oublions pas tout de même qu'il comprend parfaitement notre langage.
Oui.
Et qu'il, quand il lève son oreille droite, c'est oui. Quand il lève son oreille droite,
c'est non. Hein. Absolument.
Bon, alors comme dit le vieux, comme dit parfois le vieux, il dit ce qui est ennuyeux avec cette bête, c'est qu'elle a presque toujours raison.
Eh oui. C'est ça. Ouais. C'est le vieux qui dit ça, alors bon.
Oui, c'est le vieux qui dit ça.
C'est plutôt drôle. C'est plutôt drôle en plus.
Voilà. Bon, et puis alors le chien,
oui.
Jeb. Le chien, évidemment. Alors pour les Égyptiens, c'est un animal d'une importance considérable, à tel point que dans la vallée des rois, il y a des chiens qui ont leur tombe avec des offrandes. Alors, ils étaient vraiment très très bien soignés. Ils avaient des colliers de cuir de première qualité. Bon, un chien, je crois que tous les gens qui ont des chiens le savent très bien, c'est la fidélité absolue.
Absolue.
Un chien,
tout à
c'est
fait.
Toujours prêt.
Tout à fait. Près de son maître, tout à fait. Oui,
c'est le maître et vraiment le dieu absolu.
Tout
bon,
à fait.
On communique très aisément avec son chien.
Moi je parle bien avec mon chien.
Voilà.
On se comprend bien.
On a une communion de pensée. Enfin,
c'est vrai.
Donc, c'est dans l'univers égyptien, le monde animal est très important. Tous les pharaons, un chien, bien entendu.
Oui.
Il y en avait des. C'est très très joli à Assouan, vous savez, tout au sud de l'Égypte. Il y a des tombes de hauts dignitaires de la fin de l'Ancien Empire, et il y a, sur une paroi, il y a une représentation de deux chiens, très très belle représentation. Alors, c'est un peu, je dirais, les deux opposés, mais alors vous avez une vieille mémère chienne, hein, où on voit les mamelles, elle est une sorte de basset, si vous voulez, donc on voit qu'elle est bien nourrie, et puis à côté, vous avez alors le chien un peu lévrier, quoi. Haut sur pattes, vif, avec la queue en tire-bouchon, le museau, les yeux d'une intelligence. Vous avez là un peu les deux opposés, et donc qui sont représentés sur les parois d'une demeure d'éternité, pour l'éternité.
Pour l'éternité.
Et nous contemplons toujours aujourd'hui.
Voilà. Alors, je ne vous laisserai pas partir sans parler des dernières, rapidement bien sûr, des dernières aventures de Monsieur Higgins, les sept merveilles du crime. Alors, il lui arrive encore plein de choses, bien évidemment. C'est notamment un monsieur qui a un casque d'aventure virtuelle. Et puis, finalement, il fait face à une agression assez, assez brutale. Alors, moi, j'ai beaucoup aimé aussi cette aventure. Mais alors, il y a une chose, par contre, qui m'a fait frémir, c'est que sur les sept merveilles du monde, il n'en reste plus beaucoup, il n'en reste plus qu'une.
Eh oui, en effet, sur les sept merveilles, alors je ne vous les cite pas de mémoire.
Oui, mais...
Vous verrez dans le livre, oui. Et c'est d'ailleurs le cœur de l'énigme.
Oui.
Eh bien oui, il y en avait deux en Égypte.
Oui.
Il y avait le phare d'Alexandrie.
Oui.
Et puis en fait, eh bien, tout ont été détruites, le mausolée d'Halicarnasse, etc., etc. Et il n'en reste qu'une, la Grande Pyramide.
La Grande Pyramide de Gizeh.
Voilà, c'est
incroyable.
La dernière merveille du monde.
C'est incroyable.
Parmi nous.
Ouais.
Et c'est vrai que c'est une grande, grande merveille. Mm. Et elle a résisté, elle résiste depuis bientôt 5000 ans. Et c'est assez fascinant d'ailleurs, parce que vous savez qu'elle est, l'Égypte est située sur une petite ligne de faille.
Oui.
Il y a déjà eu de très graves tremblements de terre, notamment, il n'y a pas si longtemps que ça, et il y a eu beaucoup de dégâts au Caire, par exemple, au 19e siècle. Mm-hmm. Et la Grande Pyramide, elle résiste aux tremblements de terre. Elle a été conçue, calculée. Il y a d'ailleurs ces fameuses salles, vous savez, que l'on découvre, et qui sont, selon certains spécialistes, moi je suis assez d'accord avec ça, en quelque sorte des dispositifs antisismiques, pour que ce monument vive, qu'il soit, il n'est pas rigide.
Oui, et qu'il soit protégé, bien sûr.
Pires, voilà. Donc c'est assez extraordinaire.
Alors je rappelle le titre de votre livre, Horemheb, le retour de la lumière aux éditions Ixo, et puis donc les dernières aventures de Monsieur Higgins, les sept merveilles du crime. Voilà, c'était un vrai plaisir de vous recevoir. Moi, je conseille ce livre magnifique sur un personnage à découvrir ou à redécouvrir, en tout cas je l'espère, un merveilleux cadeau de Noël pour ceux qui sont passionnés par ce que vous faites et puis par l'histoire égyptienne. J'espère qu'on se retrouvera dans quelques mois pour un nouvel ouvrage. Je ne doute pas que vous ayez encore plein d'histoires à nous raconter, Christian Jacques.
Voilà, il est en cours d'écriture.
Bon, et ben alors on vous retrouvera dans quelques mois. Horemheb, le retour de la lumière aux éditions Ixo par Christian Jacques, et donc les dernières aventures de Monsieur Higgins, les sept merveilles du crime. Merci infiniment, je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année, Christian Jacques, et je vous dis à l'année prochaine peut-être.
Eh bien, ce sera avec grand plaisir, et merci beaucoup de votre accueil.
Je vous en prie, avec plaisir, merci, au revoir.
Au revoir.